Próxima estación.
Si quiere.
Moi, j'interviens en disant...
Va.
Alors, on pourrait faire...
Adin.
Et puis après...
Nul.
Dans un premier temps... Je sais plus.
Je ne sais plus.
Berroyer, Jackie.
Ouais, on entendrait... ouais. Mais là, on va passer dans cette radio, le gars qui dit, voilà ce que je vais dire.
Jackie Berroyer.
Alors, voilà ce que je vais dire dans la radio. Alors, c'est la fête des mères. Bon, c'était hier la fête des mères, mais... Alors, comme Radio Bamba n'oublie pas la fête des mères, voici un « Pour toi, maman », une chanson de Rusty Rutsch, un chanteur belge.
Chère maman, tes yeux sont bien plus beaux qu'un diamant.
Alors, après Rusty Rutsch, Radio Bemba, la seule radio qui vous passe les radios des autres, les autres radios plutôt, voici un petit coup de France Musique.
L'œuvre que nous allons entendre maintenant date justement de sa période de maturité, période contre les... riche d'inspiration. Nous sommes en 1897, Chausson a 42 ans, il disparaîtra 2 ans plus tard. Il écrit cette année-là une très belle pièce pour violoncelle et piano, riche de mouvements et aux modulations harmonieuses. C'est cette pièce en mythe majeur, opus 39, que nous vous allons entendre maintenant, interprétée par Frédéric Lodion, violoncelle, et Daria Ovora, piano, Bösendorfer.
Ragoût de panique.
Chapitre 73. L'industrie mondiale du disque.
Sans aucun doute, vous vous posez avec angoisse la question suivante.
Une radio qui se dit de gauche alternative comme Panique peut-elle contrecarrer l'emprise du capitalisme sur la production et la diffusion musicale enregistrée ou au contraire, en est-elle le jouet ?
L'industrie mondiale du disque est aux mains d'un nombre très limité de majors qui ont acquis la capacité de couvrir toute la gamme de l'offre musicale, contenus et formes, depuis la production jusqu'à la distribution dans la planète entière. Les radios privées sont devenues de plus en plus les vitrines de cette industrie du disque.
Et les auditeurs des lèches-vitrines ou des suce-moi.
Il existe certes une foule de petits producteurs indépendants, de petits labels, qui tentent de maintenir des circuits alternatifs de promotion et de distribution. Et il existe aussi des artistes qui, grâce aux technologies de plus en plus abordables, arrivent à s'autoproduire.
Et le statut des artistes, quand en parlera-t-on dans cette production ?
Les majors, sans cesse en quête de renouvellement de leur fonds de commerce, savent qu'elles trouvent chez les labels alternatifs les innovations qu'elles sont incapables de générer elles-mêmes. Au fil du temps, les majors ont tissé via leurs filiales des relations avec les circuits indépendants, eux-mêmes plutôt périphériques ou prospectifs que radicalement alternatifs.
Panique, prospe. Peu crifique.
Radio Panique, par exemple, qui est justement où tu as une série d'animateurs
d'émissions musicales qui sont à la recherche de musique justement, je veux dire alternative, même si c'est peut-être plus un terme à la mode, mais quand j'entends alternative, ce ne sont plus les tubes qui passent 10, 15 fois et qui sont les 10 premières places du hit-parade, même les 100 premières places ou les 200 premières places du hit-parade. Ce sont une création musicale qui appartient à un réseau qui s'internationalise, parce que maintenant au niveau de avec Internet, avec des magazines spécialisés, il y a moyen d'avoir quand même de créer un réseau musical international avec des gens connaisseurs, des critiques musicaux, etc. qui sont, si tu veux, cet terreau foisonnant de créateurs et de petits labels innovants. Donc Radio Panique travaille beaucoup encore avec ces petits labels. Hein. Ces petits labels qui soit des fois n'intéressent pas du tout les crocs. Les grosses majors, et donc qui ne sont pas rachetés, qui restent tranquilles, mais qui ont dur à survivre. Ça devient une société à finalité culturelle, si tu veux, une affinité sociale, où le bénéfice au niveau artistique, au niveau culturel, est plus important que le bénéfice économique. Donc c'est des fois des investissements à perte, etc. dans ces petits labels. Mais le gros problème, la grosse évolution, c'est ces majors qui sont développés. C'est qu'on avait l'habitude de travailler. Il y avait certains programmateurs qui avaient l'habitude de travailler avec des petits labels, qui d'un coup, ce petit label se fait avaler par un gros. Et alors, ce que les labels s'amusent à faire, c'est de laisser la gestion artistique, des fois, la direction artistique à ces petits labels, pour qu'ils continuent à fonctionner de la même manière, mais avec plus de moyens. Donc il y a toujours, si tu veux, ce nom du label d'origine, avec accompagné du nom de la major, au niveau de la distribution. Mais qu'il y a toujours ce même esprit de départ. Et alors là, il peut avoir, comme tu dis, peut-être cet aspect contradictoire, c'est que, merde, on est en train de soutenir une grosse multinationale.
Panique merdique.
La radio associative, elle a beau avoir ce discours, comme tu dis, peut-être au niveau de la vie, si tu veux, la vie, l'investissement culturel, l'investissement social de l'individu dans la société, et le droit de l'expression, la diversité culturelle, donc une série de valeurs importantes. Mais au niveau musical, c'est vrai que les espaces de recherche sur une certaine création libre de tout intérêt d'une manipulation, ça devient de plus en plus difficile. Mais ça existe, ça continue à exister. Je veux dire, c'est une question que tu peux poser à Serge, c'est tout son travail, ça.
Tant que Philippe Livrault était dans le bureau, qui était quand même une des figures emblématiques de la radio, une personne engagée aussi bien au niveau politique qu'au niveau culturel, c'est-à-dire qu'il a introduit la radio dans, par exemple, ce qu'on appelle la FERARock, Fédération des radios associatives promouvant les musiques amplifiées. Et j'aimais bien ça, quoi. Il allait souvent en France, tout ça. J'ai toujours été attiré un peu par la France, ce qui s'est passé, etc. Et puis, je regardais ça, mais de loin, sans comprendre vraiment. Je le voyais dans le bureau travailler. C'était le premier sur Internet. Je ne savais pas du tout ce que c'était, etc. Et puis, le jour où il est décédé, j'ai mis plusieurs mois à venir à la radio comme ça. Et je voyais que tout son travail, tout ce qu'il avait fait, et qui me semblait super important pour la radio, ben, tout ça tombait à l'eau parce que personne n'avait l'air de comprendre le potentiel des contacts qu'il avait élaborés, quoi. Donc de là, je les ai repris petit à petit sans vraiment rien y connaître, quoi. Vraiment, je connaissais un peu en musique, j'avais une ouverture assez éclectique, mais ça se limitait à ça. Et petit à petit, en reprenant ses fonctions, j'ai appris plein de choses. Outre le fait qu'en même temps, je maintenais ses contacts et que je construisais une relation durable entre la radio et l'extérieur, d'autres radios, d'autres centres culturels, etc. Et tout ça. Et une fois que j'ai mis un pied, l'autre a suivi assez vite et j'ai jamais pu en décrocher.
Et donc l'affaire Arock, c'est une association française qui regroupe toutes les radios alternatives françaises, enfin beaucoup, qui sont assez semblables à la nôtre. Et ils ont deux radios cousines, celle du Canada, CIBL, et nous, Radio Panique. Et donc ça nous a permis de... C'est comme si on avait... on fait un hit mensuel, et avec ce hit mensuel, on l'envoie à tous les labels. Et ça permet de faire comme si on était une toute grosse radio, une beaucoup plus grosse voix que plein de petites voix. Mmh. Donc c'est plein de petites voix radiophoniques qui font une grosse voix. Et donc ça nous permet d'avoir plein de disques, quoi.
Y a une évolution sur tout ce qui est musique alternative et la diffusion de promotion culturelle, parce que parfois ça tourne à la pub culturelle, c'est un peu dommage.
Quel type d'évolution?
On brasse beaucoup plus d'informations et les gens sont plus habitués à travailler avec nous. Par exemple, parfois maintenant, les attachés de presse, ils me téléphonent pour que je vienne. Ce qui n'était pas le cas avant, où avant, je devais aller faire la demande de tel groupe. Maintenant, je suis au courant de tout ce qui est potentiellement à interviewer, à traiter, etc. On reçoit une manne d'informations assez incroyable. Aussi grâce à l'affaire Arock. Philippe, quand il nous a inscrit à l'affaire Arock au début, c'était un réseau balbutiant. Aujourd'hui, l'affaire Arock est un réseau, au grand dam de certains membres du réseau, est un réseau hyper établi en France. C'est-à-dire que même des grosses majors demandent des partenariats à l'affaire Arock et courent derrière l'affaire Arock pour qu'il y ait un partenariat, parce qu'ils savent que ça va leur donner une visibilité auprès d'auditeurs qui, dans chaque région de France, voire au Canada, voire... En Belgique. Et donc il y a cet impact de partenariat beaucoup plus développé. Évidemment, ça a le revers de la médaille, parce que d'office, quelque part, on a affaire à des gens qui ont une logique commerciale, et quelque part la radio aussi est beaucoup moins je dirais en gros revendicatrice ou gauchiste, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc on est obligé de faire un peu des compromis un peu dans le secteur marchand, quoi. On ne traite plus qu'avec le secteur non marchand, on est moins radical, quoi. Je veux dire, en gros, on est un peu plus, je dirais pas capitaliste, parce qu'en gros, on ne touche pas d'argent là-dessus, quoi. Mais un peu plus, je sais pas, démocratique, on pourrait dire, ou plus coulant en cette matière-là, quoi.
Et si on veut grandir et progresser, est-ce que ce n'est pas inévitable ?
C'est inévitable, je pense. Mais il faut faire attention, il ne faut pas non plus rentrer dans l'autre pôle qui serait faire du fric à tout prix et faire n'importe quoi pour grandir, quoi. Il faut quand même garder un certain esprit de départ, même s'il évolue, dû à l'évolution de la société, dû à l'évolution des gens qui viennent ici, parce que ce n'est pas les mêmes qui sont ici qu'il y a 10 ans. Pour certains, pour la grosse partie de la radio, on est quoi ? On est 8-10 du début là, le reste c'est beaucoup de petits nouveaux, des jeunes et tout. Donc.
Il faut toujours être vigilant.
Il faut rester vigilant, quoi. En même temps, il n'y a pas une philosophie, je veux dire, délimitée dans un livre qui est écrit sur 200 pages. Il y a la charte de la radio, mais elle n'a jamais été vraiment respectée par tout le monde. Donc en même temps, ces repères, ils sont assez flous, quoi. Mais. On sait qu'il y a des limites à ne pas dépasser, quoi. Voilà, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, dans le jardin public, ça ne me dérange pas de passer un spot pour un certain type de soirée. Par exemple, il y a des boîtes de nuit où je sais que c'est tout pour le fric, où il n'y a aucune logique artistique. Ben, je ne leur ferai pas de la pub, quoi. Même s'ils vont me donner beaucoup d'argent, je m'en fous. Par contre, le petit gars qui fait des soirées drum and bass, même si lui, il a envie qu'il y ait 1000 personnes, que sa soirée, il y a du fric qui rentre, je sais que l'argent, en gros, ça ne va pas être tout pour lui, ça va être pour un collectif. Et que c'est après pour inviter des meilleurs artistes pour que la soirée soit encore meilleure après, quoi. Et pour qu'elle soit encore, encore plus sympa, quoi. Pour qu'il y ait encore de meilleurs artistes, en gros, etc. Donc voilà.
Et que personne ne l'oublie.
Aucun label, aucun distributeur qui impose quoi que ce soit à Serge. Serge choisit complètement sa programmation. Donc on n'a aucun droit d'exclusivité et on reçoit on signe aucun contrat avec des labels. Donc ça ne rapporte aucun. On reçoit juste des disques gratuits en promotion. C'est tout. Hein.